Bonjour à tous.
Où sont les poulards? J'ai faim! Jacquard, le gueux! Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice! Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poirés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit!
Vous avez encore faim?
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, où toute cette semaine, c'est à la table des philosophes que nous nous arrêtons. Culpabilisée et futilisée pour certains, la nourriture n'en est pas pour autant muette. Et d'autres continuent ainsi à nous en abreuver. Après donc l'apparition du bon goût sous les philosophes de l'Ancien Régime, après les règles du cru, du cuit et du rôti qui gouvernent nos manières de table, et avant la dialectique de la digestion, voici donc venu le temps de festoyer en compagnie, bien sûr, de Rabelais. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins se met-elle aussi à table? Marianne Chassor, Antoine Ravon, Lucie Tardy, David Pargamin, Denis Ramon, sans oublier bien sûr Adèle Wendrette, avec à la lecture des textes cette semaine Vincent Schmitt, à la réalisation Hervé Marchon et à la prise de son aujourd'hui Jacques Hubert. Buveur très illustre et vous, vérolés très précieux. C'est à vous, à personne d'autre que sont dédiés mes écrits. Mais vous, mes bons disciples et quelques autres folles en disponibilité, lorsque vous lisez les joyeux titres de certains livres de notre invention, comme Gargantua, Pantagruel, Fesses peintes, La dignité des braguettes, Des pois au lard assaisonnés d'un commentaire, etc., vous jugez trop facilement qu'il n'y ait question au-dedans que de moquerie, pitrerie et joyeuse menterie, vu qu'à l'extérieur, l'écriteau, c'est-à-dire le titre, est habituellement compris sans examen plus approfondi dans le sens de la dérision ou de la plaisanterie. Mais ce n'est pas avec une telle désinvolture qu'il convient de juger les œuvres des humains. Car vous dites vous-même que l'habit ne fait point le moine. C'est pourquoi il faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui y est exposé. C'est alors que vous vous rendrez compte que l'ingrédient contenu dedans est de bien autre valeur que ne le promettait la boîte. C'est-à-dire que les matières traitées ici ne sont pas aussi frivoles que au-dessus le titre le laissait présumer. Voilà pourquoi c'est à nous aussi maintenant d'ouvrir ce livre et les oreilles, ce livre du géant Rabelais. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Bruno Pinchard, professeur à l'université Jean Moulin Lyon 3, à la chaire de philosophie de la Renaissance et de l'âge classique, président de la Société Dantesque de France et auteur notamment de Philosophie à outrance, 5 essais de métaphysique contemporaine. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Comment Gargamel, Estengros de Gargantua, se porta à manger tripes. L'occasion et manière comment Gargamel enfanta fut-elle, et s'il ne le croyait, le fondement vous escape. Le fondement lui escapouait une après-dînée, le troisième jour de février, par trop avoir mangé de godbillo. Godbillo son grasse tripe de Quarot, Quarot son bœuf engraissé à la crèche et préguimau. Les tripes furent copieuses, comme entendez, étant friandes et que chacun en l'échouait ses doigts. Gargamel commença de lamenter et crier. Et soudain vinrent à ta sèche femme de tous côtés, et la tastant par le bas, trouvèrent quelques pelots de riz, assez de mauvais goût, et pensouaient que ce fut l'enfant. Mais cesse-toi le fondement qui lui escapouait, à la mollification du droit intestine, lequel vous appelez le boyau culier, par trop avoir mangé des tripes dont avons parlé ci-dessus. Par cet inconvénient, furent au-dessus relâchés les cotylédons de la matrice, par lesquels sursauta l'enfant et entra en la veine creuse. Print son chemin à gauche et sortit par l'oreille céleste. Soupta qu'il fût né, il ne cria pas comme les autres enfants « Mias, mitis !» mais à haute voix s'écriait « À boire, à boire, à boire !»
À boire, c'est le premier cri de Gargantua, le père de Pantagruel. Alors Bruno Pinchard, on vient d'entendre interpréter en ancien français par Jacques Bonafé cette naissance de Gargantua qui pose complètement le décor de l'univers rabelaisien, c'est-à-dire la nourriture abonde, les corps débordent, le verbe est excessif, on rit grassement. À quoi tient cette omniprésence du thème de la nourriture chez Rabelais et surtout, que dit-elle cette omniprésence? Est-ce que c'est manger pour manger ou est-ce qu'il y a un sens littéral à la nourriture ou est-ce qu'il y a un sens métaphorique?
Vous posez des questions écrasantes d'emblée. Regardez le texte que vous venez de faire lire. Il est d'abord le texte d'une truculence, d'une vitalité, d'une immédiateté, d'une capacité à restituer la langue profonde du peuple français. Ça, c'est la première couche. Ensuite, c'est un texte de médecin qui explique très précisément comment un corps porte son enfant. Et enfin, c'est une spéculation aux limites de l'audible sur des hérésies touchant la virginité de la Vierge Marie. Parce que si l'enfant naît par l'oreille, c'est qu'il ne naît pas par la vulve et par conséquent, il évite de perdre l'hymen. Autrement dit, vous avez une scène à la fois de vie populaire, une scène d'hérésie concernant l'hymen virginal de la Vierge et vous avez un cours de dissection sur lequel Rabelais a obtenu son titre de médecin à l'université de Montpellier. Vous êtes déjà dans la complexité insupportable. C'est un texte qu'il faut ou jeter à la poubelle ou se rendre compte que on est écrasé par une variété, une polyphonie. Une polyphonie que je dirais quasiment polyplanaire, c'est-à-dire que tous les plans s'empilent. C'est une pensée épuisante et évidemment très revitalisante.
Alors revitalisante justement parce que l'alimentation est un des motifs les plus récurrents en fait des œuvres de Rabelais, Pantagruel, Gargantua, le tiers-livre, le quart-livre et le quint-livre ou cinquième livre. Cette omniprésence de l'alimentation, on voit bien qu'elle ne se réduit jamais à assouvir des besoins uniquement physiologiques. Il y a un véritable plaisir d'être avec l'autre, un véritable plaisir de se remplir même sans attention au goût, sans délicatesse. Il y a là quelque chose aussi de tout à fait nouveau, c'est-à-dire manger pour manger,
remplir. J'ai essayé depuis des années d'entrer dans ce secret de la nourriture en une époque qui est prise entre l'anorexie et le végétarisme, c'est pas très facile de se mettre dans l'esprit de cette gourmandise-là. Je me suis tenu à l'idée que je tiens de Michel de Certeau, qui à mon avis a été très loin dans cette méditation, que au fond Rabelais est contemporain d'une crise religieuse qu'on appelle en général l'évangélisme, mais soyons plus précis, d'une crise religieuse qui porte sur la nature de l'Eucharistie. Je crois que profondément, l'Occident est un Occident dévorateur, mais pas simplement de nourriture, mais de son Dieu. Et donc, il a fallu que l'évangélisme propose des modes de spiritualité qui, à la fois, se libèrent de la centralité de l'Eucharistie et qui, en même temps, continuent le message de paix du christianisme. Et en trace, en creux de ce manque à l'hostie, vient la nourriture. Autrement dit, on s'aperçoit qu'il y avait un énorme repas pantagruélique, au fond refoulé par l'Occident médiéval. Ce repas se libère à la Renaissance, mais va entraîner dans son extraordinaire dévoration les assises mêmes de la conviction de l'incarnation du Christ. Autrement dit, je crois quand même que ça mange parce qu'il y a du Christ qui s'en va quelque part. Et c'est ça
on mange pour combler le vide,
pour combler.
Ou pour critiquer,
Michel
pour cueillir
Certeau,
un vide.
Oui, expliquait très bien que dans la fable mystique, que les femmes, comment dirais-je, affectées dans leur corps mystique, par exemple comme Thérèse d'Avila, c'était des femmes qui devenaient des femmes hosties. Des femmes qui vivaient dans la blessure de leur corps, parfois dans la souillure de leur corps, la trace absente de l'Eucharistie. Et donc, je crois que c'est une analyse jésuitique, mais parfaitement pertinente.
Par contre, il faudrait préciser, c'est-à-dire que on mange parce que Dieu est parti, ou on mange pour que Dieu parte. Quel est le but de l'entreprise rabelaisienne? À savoir, est-ce une critique de la religion? Par exemple, cette naissance de Gargantua, vous l'avez dit, c'est une sorte de reprise parodie de la nativité. C'est-à-dire que elle ne veut pas accoucher par le sexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a trop mangé et qu'elle a pris des astringents et que du coup, son Gargantua va naître par son oreille. Donc, il y a véritablement une parodie, mais qui est sur le mode du rire. Là, on est plutôt du côté de la critique que du côté de combler un manque qui serait déjà là.
C'est-à-dire que la finesse de Rabelais, c'est de vous faire rire pour vous empêcher de vous précipiter sur un sens trop déterminé. Prenons un exemple. Pendant des années, on a voulu interpréter cette œuvre comme un manifeste évangélique, comme si l'évangélisme était le terme de l'œuvre. Non, il faut dire que l'évangélisme, c'est au contraire le commencement. C'est-à-dire, en revenant à une doctrine christique plus intense et plus pure, ça conduit à l'ouverture à des domaines qui sont au-delà du monothéisme, au-delà des grandes religions instituées, et on commence à découvrir un univers religieux dont on n'a pas la clé, qu'on n'épuise pas, qui est quelque chose entre le sacré antique et l'inconscient des modernes. Ça flotte entre ces deux pôles, c'est pourquoi c'est une œuvre à la fois rieuse et démoniaque.
J'ai lu au tout début de l'émission, Bruno Pinchard, un extrait du prologue de l'auteur qui ouvre Gargantua. Et dans ce prologue, il y a une distinction à faire, peut-on lire, enfin dit l'auteur, entre ce que le titre annonce et ce qui se trouve dans la boîte, ce qui se trouve à l'intérieur, ce qui se trouve dans le livre. Est-ce que tout le rire que provoquent les livres de Rabelais à partir de cet excès de nourriture, de corps qui déborde, est-ce qu'à partir de ça, en fait, il faut voir plus loin? Est-ce qu'il faut voir, en fait, que ce rire, cet excès n'est qu'une apparence qui cache une forme de sérieux?
C'est plus que sérieux, c'est superficiel par profondeur. Ça, c'est la phrase de Nietzsche. Vous savez, ce qui est important ici, c'est de lire Rabelais pour dialoguer avec Nietzsche et, je dirais, pour surmonter Nietzsche. Cette histoire de boîte, ce sont des cultes antiques. Ce sont des cultes antiques à Dionysos. En somme, ce sont des pharmacones dans des boîtes transmis à l'intérieur d'initiation. Ce qui fait que vous devez comprendre que nous prenons avec Rabelais en charge la question de Dionysos, mais nous ne pouvons plus, à cause de Rabelais, nous arrêter aux figures qu'il prend dans la folie de Nietzsche. Il y a quelque chose de plus haut, de plus décisif que la folie de Nietzsche quand on porte le message de Dionysos. Alors Rabelais a une formule pour cela qui a rendu les interprètes fous. Je vais parler, je vais vous inviter à me lire à plus haut sens. Formule merveilleuse, à plus haut sens. Et en même temps, il dit que ce plus haut sens, il doit être saisi comme le chien saisit l'os, qu'il croque, qu'il gratte, qu'il casse pour sucer la substantifique moelle. Comment accéder à la substantifique moelle? Autre problème de nutrition, puisque la moelle est ce qui correspond immédiatement au sang. Comment on accède au sang des choses? Voilà la question que pose Rabelais ici.
On apprêta le souper et de surcroît furent rôtis 16 bœufs, 3 génisses, 32 veaux, 63 chevreaux moissonniers, 95 moutons, 300 gorées de lait à beau mou, 11 vins perdrix, 700 bécasses, 400 chapeaux de loup, du noix et cornouailles, 6000 poulets et autant de pigeons, 600 galinottes, 1400 levrots, 300 et 3 outardes et 1700 du taudeau, et 10 et 8 bêtes fauves que donna le seigneur de Grandmont. ensemble, de vin faisant, qu'envoya le seigneur des Essarts et quelques douzaines de ramiers, de oiseaux de rivière, de cercelles, buors, courtes pluviers, cravants, tirançons, tadournes, poches culières, poicres, aigros, nofoulques, aigrettes, cigognes, cannes, pétières et renforts de potage.
Bonjour monsieur, comment allons-nous aujourd'hui?
Ça irait mieux.
Mieux?
Si vous m'apportez un seau, je vais dégueuler.
Ah, Gaston, apportez un seau pour monsieur. Merci Gaston.
Pas fini.
Aujourd'hui, nous pouvons vous proposer en entrée, excusez-moi, moule marinière, foie gras, caviar, beluga et blinis, œufs en meurette, ou alors tarte aux poireaux, cuisses de grenouille frites, la sauce provençale, une merveille, œufs de caille à la richard shepherd.
Bienvenue.
Un choix de gourmet. Est-ce que vous désirez que l'on vous serve le tout pêle-mêle dans un seau, monsieur?
Oui, avec des œufs à cheval.
Oui, bien sûr, avec des œufs frits.
Lésinez pas sur le foie gras.
Tiens, et avec ça, votre bière hollandaise?
Oui.
Et pour finir, monsieur, un chocolat fourré à la menthe?
Écoutez, là, j'ai les dents du fond qui baignent, je peux plus rien avaler. Fichez-moi la paix.
Oh, j'insiste.
Alors, petite.
Oui, oui, minuscule. Voilà. Bon appétit.
Bruno Pinchat, alors on vient d'entendre un sketch des Monty Python, c'est dans Le sens de la vie qui date de 1983, où on entend ce personnage tour à tour se goinfrer, vomir, se goinfrer, se gaver, vomir, jusqu'à exploser. On a ici d'une certaine manière l'illustration parfaite des festins permanents que l'on trouve chez Rabelais. Et en même temps, dans le texte qu'on a entendu juste avant, toujours extrait de Gargantua, où on a cette énumération lue en ancien français encore par Jacques Bonafé, avec ses 16 bœufs, ses 95 moutons, ses 6000 poulets et autant de pigeons, on voit que, à la différence des Monty Python, le corps chez Rabelais n'explose jamais. Il peut se vider, mais il n'explose pas. C'est le désir, c'est l'illustration même, la mise au jour du mécanisme du désir qui finalement ne fait que se renouveler et n'arrive jamais à satiété.
Vous avez parfaitement raison, parce que les repas les plus monstrueux chez Rabelais n'épuisent jamais le désir. Parce que Rabelais a porté sur l'intelligence, ce qui est, je dirais, le canal entre l'estomac et l'extérieur, c'est-à-dire sur la gorge. C'est une sorte de valve qui permet de communiquer entre le monde de l'extérieur et le monde de l'intérieur. On pourrait même dire que la découverte de Rabelais par rapport à celle de Freud, c'est que l'homme n'est pas dans la castration et dans le point phallique. L'homme est dans la gorge. On pourrait le dire encore plus précisément, l'homme est dans le cri primal. C'est-à-dire le moment où l'air va rentrer et va transformer l'intérieur du corps en un lieu d'absorption. Eh bien, la gorge est donc le sphincter, le rythme de la vivacité rablaisienne. Ce qui importe donc, c'est pas tant les quantités qui sont ingérées, que le fait que ça passe par la gorge et que une humanité à la mesure de son désir doit apprendre, d'une part, à dilater sa gorge, à ne plus vivre dans cette chétivité de la déglutition amère dans laquelle nous vivons tous, et deuxièmement, pouvoir utiliser cette gorge selon un rythme d'entrée et de sortie, et je dirais aussi une sorte de respiration de la gorge. Vous avez vu cet enfant qui est né par l'oreille, il est forcément lui aussi passé par la gorge. Eh bien, il faut que les valves du corps, anus et gorge, donnent cette espèce d'harmonie d'ouverture et de fermeture qui fait que la gorge est le point Tao, je dis bien le point Tao, d'un corps humain qui est prêt pour la connaissance.
Alors comment comprendre avec Rabelais justement cette importance accordée au corps qui ici, pour le coup, n'est pas un corps qui est beau, mais qui est seulement un corps, en fait, médical, anatomique. C'est-à-dire, c'est un corps même mécanique, fait de tuyaux qui communiquent, je pense notamment à cet épisode où Gargantua, ou Grand Gousier, le père de Gargantua, s'aperçoit de l'intelligence de son fils, lorsque son fils lui dit qu'il a trouvé le meilleur moyen de se torcher le cul, c'est le texte qui le dit, en choisissant un oison, car l'oison procure de la chaleur, et cette chaleur va se communiquer du fondement jusqu'au cœur, jusqu'au cerveau, et on voit bien finalement que le corps n'est qu'un passage avec Rabelais.
Alors, d'une part, ne pensons pas que ça soit un corps causal, un corps mécanique, parce que il se moque des moulins à vent, des gens qui se prennent pour des épinettes, de tous ceux qui font claquer leurs dents. Toute cette mécanique du corps ne l'intéresse pas. Ce qui est essentiel, c'est de découvrir que nous croyons être des hommes, nous étions des géants. C'est ça le fond des choses. L'humanisme de Rabelais n'est pas un humanisme de l'homme, c'est un humanisme du géant. Donc nous pensions avoir un corps mesurable, par exemple, par la rosace de Léonard de Vinci. Nous étions en réalité plein de bubons, d'excroissance, de multiplication, et au point que nous sommes le monde dans notre excroissance maximale. Alors une fois qu'on a compris qu'il y avait ce gigantisme qui minait les formes arrêtées d'une société, il faut d'une part éduquer les géants, mais conduire leur corps. Et cela se passera par la rythmique de la gorge dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, il faut comprendre que ce gigantisme est si puissant, il est si sanguin, il est si radical qu'il s'ouvre à d'autres nourritures que celles qui s'ingèrent. Ce sont les nourritures de la connaissance, et essentiellement cet autre objet que Rabelais mange encore plus que les bœufs et les poulets, c'est le livre. Rabelais mange des livres, et c'est là que, entre la complexité du phénomène, il a autant mangé de livres publiés à la Renaissance dans les imprimeries lyonnaises qu'il a mangé de poulets et de couleuvres dans l'énumération de son appétit mondial.
Est-ce qu'on ne pourrait pas faire plutôt, Bruno Pinchard, la lecture inverse que celle que vous proposez sur le gigantisme, à savoir en fait que le gigantisme ne minait pas l'homme, mais que justement c'était plutôt le fait que l'homme soit écrasé par les transcendances qu'il avait peut-être inventées, mais qu'il était écrasé par ça, et que finalement Rabelais, en décrivant des corps énormes, en donnant la place à des gens, à des géants qui sont attendrissants, qui sont tout à la fois des géants qui se remplissent effectivement de nourriture et de savoir, finalement, est-ce que ce n'est pas en donnant une énorme place à l'homme que Rabelais va redonner une place, on va dire, toute sa place à l'homme, et faire là œuvre humaniste?
Bien sûr, mais il y a un risque, c'est-à-dire que j'entends bien que vous le pensiez sous le registre de la dignité de l'homme, et vous en faites un beau projet de l'humanisme renaissant, je vous accorde tout cela. Mais la difficulté, c'est que si on découvre que cet homme-là est un géant, ça va compliquer la mesure. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de Léonard de Vinci, qu'on peut parler depuis de la Mirandole. Rabelais, il ne parle pas de Léonard de Vinci d'une façon explicite, en revanche, depuis de la Mirandole, beaucoup. C'est un mirandolisme outré. Et donc, comment évaluer cette outrance? Et comment vivre au risque de cette outrance? Voilà ce que moi j'appelle une philosophie à outrance.
C'est-à-dire, quels sont les risques de cette outrance?
Eh bien, d'abord, il y a l'explosion dont vous parliez. Il y a une très belle scène où il rencontre des gens qui mangent jusqu'à se faire éclater. Et ça s'appelle, ils jouent à une fête. C'est une fête qui a pour but de faire éclater la graisse de leur propre corps. On l'appelle la fête des crevailles. Et alors, il les arrête. Il leur dit, mais non, vous devriez prendre votre ventre et le cercler de bon bois cormier comme les tonneaux dans nos caves. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'avoir poussé jusqu'à l'explosion le tonneau, mais il faut l'avoir cerclé. Selon des vieilles traditions celtiques, je vous rappelle, c'est les Gaulois qui ont inventé la technique du tonneau et la technique du cerclage. En bois et pas en fer à cette époque, le cormier étant un bois qui résiste bien à ce genre de tension. Il en découle que Rabelais enseigne à faire de nous des outres qui maîtrisent le nerf de leur unité. Mais ça n'est pas joué. On est tout le temps en train d'être au bord d'en perdre les enjeux. C'est pourquoi on a affaire à un très grand tonnelier. On pourrait même dire que c'est un frère tonnelier que Rabelais.
Donc c'est le paradoxe finalement chez Rabelais, à savoir décrire l'excès tout en essayant de l'articuler avec une maîtrise. Mais alors c'est un projet même un peu divin, c'est-à-dire que à force de décrire des corps qui débordent et qui sont déconstruits, c'est-à-dire que finalement il n'y a pas vraiment de différence entre les espèces, entre les sexes, une femme boit comme un homme, un oison peut devenir un torche-cul, on peut manger toutes sortes d'insectes. Cette déconstruction entre les espèces finalement conduit à faire de l'homme un corps qui peut tout contenir, et cet homme devient presque divin.
Il en est en tout cas si proche qu'il menace les dieux. La fin du tiers-livre s'achève par une prophétie absolument hallucinante. C'est si l'on est en mesure de conduire un bon usage d'une plante miraculeuse qu'il appelle le pantagruélion et qui en réalité est le chanvre, un chanvre incombustible, alors les dieux vont sentir que monte une force titanesque, ce qu'ils appellent les aloïdes, donc les titans vont remonter de la terre et vont réclamer la place des dieux. Et là, il y a une très grande ambiguïté, parce qu'on ne sait pas si Rabelais est du côté des Olympiens qui doit foudroyer les titans, ou s'il est du côté de cette force irrémédiablement gigantale qui monte de la terre et vient réclamer le pouvoir auprès des dieux. Et c'est pourquoi je disais au début que l'évangélisme, c'était le début, mais c'était pas la fin.
Il est 10h27, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le troisième moment de notre semaine consacrée à la nourriture. Et après le goût, les tabous alimentaires et avant la digestion, c'est de festins infinis, ceux de Pantagruel et Gargantua que nous parlons, en compagnie de Bruno Pinchard, professeur à l'université Jean Moulin Lyon 3, à la chaire de philosophie de la Renaissance et de l'âge classique, président de la Société Dantesque de France et auteur de Philosophie à outrance, 5 essais de métaphysique contemporaine aux éditions EME et aussi de métaphysique de la destruction disponible aux éditions Peters.
L'armée fut saisie d'une grosse housée de pluie. Ah donc, Pantagruel tira la langue seulement à demi et l'encouvrit comme une géline fait ses poulets. Cependant, moi qui vous fais cet en véritable conte, m'étais caché dessous une feuille de bardane. Mais quand je les vis ainsi couverts, je m'en allais à eux rendre à l'abri, ce que je ne peux tant ils étaient. Donc, le mieux que je peux, je montais dessus et cheminais bien 2 lieues sur sa langue tant que j'entrais dedans sa bouche. Mais, ô Dieu et déesse, que vis-je là? Jupiter me confonde de la foudre trisulque si je mens. J'y cheminais comme l'on fait à Constantinople et y vis de grands rochers comme les monts des Danois. Je crois que c'étaient les Dents. Et de grands prés, de grandes forêts, et de fortes et grosses villes non moins grandes que Lyon ou Poitiers. De là, partant, je passai par entre les rochers, qui étaient ses dents, et fis tant que je montais sur une, et là trouvai les plus beaux lieux du monde, beaux grands lieux de paulmes, belles galeries, belles prairies, forces vignes. Et là demeurai bien 4 mois, et ne fis onc telle chair que pour l'or. Puis me descendis par les dents du derrière, mais en passant je fus détroussé des brigands par une grande forêt qui est vers la partie des oreilles. Puis trouvai une petite bourgade à la Deux-Vallées, j'ai oublié son nom, où je fis encore meilleure chère que jamais et gagnai quelque peu d'argent pour vivre. Savez-vous comment ? À dormir. Et là, commençai à penser qu'il est bien vrai ce que l'on dit, que la moitié du monde ne sait comment l'autre vit.
Bruno Pinchard, on vient d'entendre, interprété par Vincent Schmitt, un extrait de Pantagruel. Pantagruel, donc, le fils de Gargantua, qui protège dans ce texte la pluie, son armée de la pluie, en déroulant sa langue. Et par mégarde, le narrateur se retrouve dans sa bouche et se retrouve à découvrir l'autre moitié du monde, à vivre plusieurs mois, sur plusieurs territoires différents, dans le corps même de Pantagruel. Il faut donc qu'au gigantisme du corps se joigne un gigantisme du temps, mais aussi de l'espace, qui va produire une sorte de changement d'échelle, mais aussi de changement de valeur.
Oui, je crois que cette expression « moitié » nous importe infiniment, parce que nous croyons être au bout de l'humanisme, justement, après les grands témoignages de la Renaissance italienne. Et au fond, cette mythologie rabelaisienne répond à l'Italie, mais on n'a fait encore que la moitié du chemin. Et nous sommes face à une sorte de multiplication d'un jeu de miroir. Il y a toujours une moitié. Et d'ailleurs, le rapport à la femme est de cet ordre, puisque la moitié du cerveau des femmes est possédée par la lune, dit Rabelais. Donc, il y a un mystère de moitié dans le monde. Et le partage du visible et de l'invisible vient s'y inscrire à tout instant quand nous croyons avoir définitivement arrêté une forme, une croyance, une évidence. Et je voudrais citer ici les lignes qui suivent, qui plaisaient tellement à celui qui m'a largement conduit sur toutes ces voies, qui était Claude Gengbe, qui je rends hommage ici. Claude adorait cette phrase, c'est « Jésus, me dis-je, voilà un autre monde ». Alors tous les mots comptent. Jésus, il est extrêmement peu invoqué dans toute l'œuvre, c'est extrêmement rare, c'est une des très deux ou trois occurrences. Et on retrouve cette idée d'un évangélisme de dilatation du sens du sacré. Deuxièmement, dis-je, entre parenthèses, Rabelais a une intériorité, il n'est pas simplement rire, explosion, multiplication, il y a déjà ce qu'on pourrait appeler un cogito rabelaisien, très près corps du Christ. Jésus, dis-je. Voilà un autre monde. Cet autre monde, c'est bien sûr celui du monde des découvertes que Jacques Cartier, que tous les grands navigateurs de la Renaissance ont pu effectuer. Mais c'est la conscience que nous ne sommes pas, et là je vais reprendre la formule admirable d'Aurélien Barreau, un physicien contemporain, nous ne sommes pas dans un seul monde, mais dans un multivers. Nous ne sommes pas dans un univers, mais dans un multivers. Et une des phrases, une des conceptions les plus puissantes de Rabelais, c'est de dire qu'en réalité, l'univers est formé d'un triangle. Les mondes, ce sont des boules qui forment un triangle et qui se touchent. Ces mondes, nous en sommes les pèlerins. Je suis dans une sphère d'un monde et je vais passer la main dans l'autre monde, l'autre moitié. Et ainsi de suite, il y a toujours un autre monde. Et pourquoi suis-je appelé ainsi à cheminer dans le triangle des mondes, c'est que depuis le centre de ce triangle, le barycentre de ce triangle, se tient un manoir de vérité qui envoie sa rosée sur les mondes. Et je chemine de monde en monde pour recueillir sur ma toison la rosée qui tombe du manoir de vérité.
Mais est-ce qu'il y a un manoir de vérité chez Rabelais ? C'est-à-dire que finalement, le trajet que fait le narrateur à l'intérieur du corps de Pantagruel, c'est aussi le trajet de la nourriture. Est-ce qu'on devrait dire avec Rabelais qu'à l'intérieur, il y a une intériorité et que dans cette intériorité que permet d'atteindre la nourriture se trouve une vérité qui serait justement découverte à travers ces excès de festin où ce festin continue ?
Oui, moi je m'oppose entièrement à l'idée d'un scepticisme déjà montaniste de Rabelais. Non, Rabelais est une gravitation autour d'un centre qu'il appelle précisément ce manoir de vérité. C'est trop facile d'arguer la multiplicité des éruditions, des jeux, des la polysémantique de l'œuvre pour dire que au bout du compte elle est si saturée qu'il n'y a pas de centre. Non, je crois que nous allons avoir, même en cette émission, à marcher vers ce centre. Ce centre, vous savez bien comment il s'appelle, il s'appelle Trinque, mais il a cette figure d'être le barycentre d'un triangle équilatéral. C'est pourquoi je ne veux pas risquer mon Rabelais qui est parti si profondément dans une expérience de vérité vers un petit scepticisme pour les Trouillogans.
Oui, mais finalement, en disant ça, Bruno Pinchard, est-ce que vous ne proposez pas un Rabelais qui serait idéaliste, qui serait dans l'idée plutôt que pure matière, plutôt que un Rabelais matérialiste, effectivement, qui serait l'image de Pantagruel ou Pan de tout, c'est-à-dire que tout n'est que matière et fait.
Je veux un Rabelais qui soit Pantagruel, c'est-à-dire qui entraîne la pensée vers la totalité. Pan ou Pantagruel, Panurge, c'est aussi Pan. À chaque fois, c'est ce dieu Pan qu'il appelle notre tout, qu'il assimile d'ailleurs au Christ, mais qu'il reprend dans toute la dimension satirique du petit dieu Pan, ou du grand dieu Pan qu'est le monde. Donc, la matière est somptueuse chez Rabelais, évidemment qu'elle est somptueuse, mais elle ne serait vue, elle ne serait pas prise à plus haut sens s'il lui manquait la moitié de son invisibilité, qui est précisément l'idéalité. La crème philosophale, un posthume de Rabelais, on peut discuter son attribution, mais ce posthume montre bien que le monde est composé d'une danse idéale qui cherche à passer par un trou pour informer une matière qui, elle, est livrée à l'atomisme. Donc, idéalité et atomisme. Voilà la rencontre avec ce sas qui est la gorge du monde, bien sûr.
Il y a, avant qu'on arrive à cet épisode de Trinque dont, que vous venez d'évoquer, Bruno Pinchard, un épisode qui est celui de l'abbaye de Thélème. C'est une abbaye que construit Gargantua, et dans cette abbaye, y est dit « fais ce que tu voudras ». Donc on retrouve cette sorte de cri de liberté qu'il y a chez Rabelais, et en même temps, en dessous, il est écrit « parce que les gens libres, bien nés, bien éduqués, vivant en bonne société, ont naturellement un instinct, un aiguillon qu'ils appellent honneur, et qui les pousse toujours à agir vertueusement et les éloigne du vice ». Alors là, on est très loin en fait de tout ce qu'on a lu dans Pantagruel et dans Gargantua, c'est-à-dire que on est tout à coup même un peu déçu par cette abbaye de Thélème où finalement les gens bien nés sont naturellement vertueux et faire ce que l'on veut, finalement, c'est être vertueux chez Rabelais, même chez Rabelais. C'est-à-dire que même manquer de civilité, de politesse, voler les cloches de Notre-Dame, je ne sais encore quelle autre péripétie plus ou moins grotesque, finalement, est ramenée à cette vertu.
Je vous ai proposé une philosophie au risque de Dionysos, et je ne dis pas que la mélancolie ou l'échec ne fait pas partie aussi de cette vitalité dionysiaque que nous interrogeons.
L'échec, c'est-à-dire la vertu, c'est-à-dire d'être amené à quelque chose de...
Non, votre déception de lectrice. Ah. Votre déception de lectrice, vous attendiez ça simplement de la boursouflure. Il y a aussi des formes qu'on pourrait dire effilées, précisément maniériste. Simplement, regardez la complexité. Fais ce que veut. Vous savez, c'est une phrase de saint Augustin en réalité. Saint Augustin, il dit ceci: aime et fais ce que veut. Problème abyssal. Et problème lié à la théologie chrétienne. Pourquoi Rabelais a retiré aime? Pourquoi il a laissé la liberté en lieu et place de l'amour? Eh bien, je crois qu'on peut résumer la conclusion en ces termes. Rabelais rompt avec le christianisme de la charité pour le remplacer par le christianisme de la liberté. La charité, l'amour, l'agapé, ça c'est une invention, c'est une lecture du christianisme à partir de saint Augustin. Rabelais, c'est l'alternative dans le christianisme à saint Augustin. C'est
de la charité à la chair même, on pourrait dire.
De la, comment dirais-je, les affinités troubles entre l'amour, la chair et la charité, dont se nourrit l'augustinisme, la pensée de Rabelais, nul amour, nulle chair ne m'arrêtera dans un destin plus profond, être libre. Car l'homme, justement, appartient au monde idéal en ce qu'il est libre, et il introduit dans les effets matériels la liberté. Et comme il dit, la formule sublime, il faut l'humanité la réformer en liberté totale. La réformer en liberté totale. Alors oui, c'est le mouvement de la réforme, au sens de Luther. mais pas au sens de Luther qui nous conduit à un serf-arbitre, c'est-à-dire à critiquer ou à refuser la liberté. C'est l'exclamation que face à Luther, il faut affirmer la réalité de la liberté, beaucoup plus que les chemins de l'amour. Vous voyez comme c'est grave.
Ô bouteille, pleine toute de mystère, d'une oreille je t'écoute, ne diffère, et le mot profère, après quoi soupire mon cœur, dans la tant divine liqueur, Bacchus qui fut d'Inde vainqueur, à toute vérité retenu. Vins si divins, loin de toi sont tenus tout mensonge et toute tromperie. Qu'en joie soit l'air de Noé conclu, lui qui ta composition nous a pris. Chante le beau mot, je t'en prie, qui me doit sauver de misère. Qu'ainsi ne se perde une goutte de toi, ou blanche ou bien vermeille, ô bouteille pleine toute de mystère, d'une oreille je t'écoute, ne diffère.
Cette chanson achevée, Bacbuc jeta je ne sais quoi dans la fontaine et soudain l'eau commença à bouillir à gros bouillons, comme fait la grande marmite de Bourgueil quand il y a fête et procession. Panurge écoutait d'une oreille en silence. Bacbuc se tenait agenouillé près de lui quand de la bouteille sacrée sortit un bruit semblable à celui que font les abeilles jaillissant de la chair d'un jeune taureau tué et préparé selon la manière qu'inventa Aristée. Ou semblable à celui que fait une flèche quand se débande l'arbalète ou que fait une forte pluie d'été tombant soudainement. Alors on entendit ce mot « trinc ». « Vertu Dieu !» s'écria Panurge. « Elle est cassée ou fêlée pour ne pas mentir. » Ainsi parlent les bouteilles de cristal de nos pays quand elles éclatent près du feu. Alors Bruno Pinchard, voici le fameux épisode de Trinc ou Trinc qui apparaît dans le cinquième livre. C'est la bouteille qui délivre ce message et on voit bien que chez Rabelais, ce n'est pas que la nourriture qui, par le trou, nous conduit à une intériorité et à une vérité et serait une forme de liberté. Il y a aussi l'alcool qui, là, délivre le sens de la vie.
Alors avant d'entrer dans ces sens vertigineux, je voudrais souligner la pureté du poème qu'on a entendu.
Qui est interprété par Vincent Schmitt.
Aussi beau qu'un poème d'Apollinaire. Rabelais, dans ses différentes capacités, était poète, disait-on. Est-ce que vous voyez l'oreille intérieure qui conduit ce poème, qui lui-même est certainement un des plus grands textes de l'Occident. Je vous dis pourquoi grand texte de l'Occident, parce que vous avez entendu cette phrase, l'ère de Noé est close. On n'a pas le temps d'en parler ici, mais disons que c'est le débat avec le Talmud qui se noue ici et qui essaye de donner à la pensée juive toute son ampleur, tout en proposant un autre âge pour la pensée humaine. Et ça, c'est écrit en une ligne. L'ère de Noé est close. Le noachisme, c'est fini. Il commence autre chose. Il se passe quelque chose de très dangereux, de très périlleux, qu'on va appeler pantagruélisme, qui commence cet autre âge. Ça n'est plus l'âge de la charité, c'est l'âge de la liberté, ce que je disais tout à l'heure. Deuxièmement, je voulais rendre ici hommage aux travaux admirables de Mireille Huchon, qui a édité la Pléiade de Rabelais, le texte indispensable pour s'approcher de Rabelais, car sans ses travaux, des esprits grincheux, des agélastes, avaient déclaré que le cinquième livre que vous venez de citer n'était pas authentique, que c'était refait, imité, que c'était pas la veine du grand Rabelais, enfin toutes sortes de singeries qui nous empêchaient de travailler. Et grâce à Mireille Huchon, nous pouvons écouter avec la dévotion toute pantagruélique ce que nous devons à ces textes. Alors merci à cette grande éditrice. Et enfin, il nous faut reparcourir tout le trajet mythologique, parce que vous voyez, nous sommes en train là de passer de l'évangélisme à des mythologies gauloises, à des mythologies galliques, à des mythologies du nord de l'Europe. à des mythologies de Thulé qui nous font remonter à des centres primordiaux très enracinés, et personne n'a le dernier mot. Ici, Rabelais nous entraîne dans des zones où plus personne n'a le dernier mot. Il suffit que vous soyez attentifs au moins à deux choses. La première, c'est que il estime que cette profondeur de sa mythologie et reprend celle, la profondeur de la mythologie de Virgile, parce qu'Aristée, c'est le mythe des abeilles, c'est le retour des abeilles sur la surface de la terre après leur éradication, c'est-à-dire les âmes qui reviennent heureuses après la mort. Et puis deuxièmement, c'est face aux gymnosophies, c'est-à-dire les brahmanes, que l'Occident s'affirme comme possédé par Dionysos. L'Occident a une vocation spirituelle qui nous met face aux révélations du Véda. Il y a une révélation rabelaisienne, comme il y a une révélation du Véda. Que les Indiens s'occupent des brahmanes, nous aurons notre tradition qui est inscrite dans les mythologies galliques. Voilà ce que vient de dire le texte que nous avons entre les mains. Donc vous voyez, le Talmud, les Védas, les mythologies nord de l'Europe, toutes ces actions mythologiques se recomposent et s'achèvent dans Trink. Alors sur Trink, je ne peux pas tout dire, mais regardez, comment il écrit Trink ? T-R-I-N-C-H. Eh bien, c'est bizarre pour dire trinquer, parce qu'il sait écrire trinquer, il parle tout le temps de trinquer, avec des K, avec QE. Prenez la première lettre T, prenez la dernière H, mettez le T sur le H, et vous avez Templum, Jérusalem, le temple de Jérusalem.
Vous pensez que c'était l'intention de Rabelais, ou c'est vous qui le lisez comme ça, Bruno Pinchard ?
Je le construis. Je pantagruélise en faisant l'art apparaître des lettres, l'art de faire apparaître les lettres non apparentes. Et pourquoi je fais ça? Parce que dans Trink, il y a aussi Inri. C'est-à-dire la nomination de Jésus sur sa croix. Donc, Inri, Templum, Jérusalem. Voilà ce qui se passe dans le Trink.
De manière, moi j'ai une lecture beaucoup plus terre à terre, Bruno Pinchard, qui est effectivement...
Nous aimons la terre tous les deux.
Bon. C'est parfait. Alors, ma lecture beaucoup plus terre à terre consiste à dire que finalement, on a énormément parlé de nourriture et que l'ivresse, paradoxalement, est ce qui est le plus logique, le plus construit, le plus proche du savoir. En fait, c'est l'état qui nous met dans un état de connaissance, en fait, un état proprement extatique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est absolument juste. C'est pourquoi notre Dieu est bien Dionysos. Simplement, nous n'avons pas à devenir fou comme Nietzsche, et nous n'entrons pas dans les crevailles de Zarathoustra.
Alors comment ne pas devenir fou? Parce que vous avez décrit effectivement ces figures de l'excès, les risques de l'outrance, mais finalement, quand on lit Rabelais, et même s'il y a l'abbaye de Thélème, même s'il y a cette intériorité, même s'il y a Trink et la construction qu'on peut en faire, comme vous le faites, Bruno Pinchard, on ne peut pas passer sur ces milliers de pages de festins, de mangeailles, de paillardise, de bonne vie finalement, et on peut se dire que il y a aussi tout un ensemble de divagations, de syllogismes absurdes, de non-construction. On peut aussi très bien, non pas faire de Rabelais quelqu'un qui ne défend rien, que la saturation ne cacherait finalement qu'elle-même, mais on peut quand même dire aussi qu'il va déconstruire la manière même d'apercevoir la connaissance.
Oui, mais c'est de la connaissance. C'est précisément de la connaissance. Vous savez, vous opposez les syllogismes et la paillardise, mais comment voulez-vous avoir l'esprit fin si vous n'êtes pas paillard ? Comment voulez-vous parler si vous n'avez pas dilaté votre gorge ? C'est-à-dire que si vous n'avez pas tutoyé la bouteille, comment voulez-vous
ne réfléchir
pas être
sans avoir bu ?
Philosophe si vous n'habitez pas à Beaumont-le-Vicomte, c'est-à-dire à Beaucon-le-Vimont. Donc, permettez que Rabelais travaille aux extrêmes et déstabilise effectivement le programme de l'humanisme italien. Je crois qu'il faut toujours en revenir là. Hein, c'est une œuvre qui procède de l'humanisme italien dans sa précision, c'est-à-dire Piglia Mirandole, François Colonna et les grands philologues de la Renaissance, mais qui propose une alternative universelle, comme j'ai dit tout à l'heure, mondiale, c'est-à-dire entre la Chine, l'Occident, l'Inde, Jérusalem et Thulé, un dispositif spirituel complet de type initiatique dont nous n'avons pas d'autre maîtrise que de nous dire que nous n'en connaîtrons jamais que la moitié.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire à partir du moment où on ne connaît que la moitié du programme humaniste que propose Rabelais ? Est-ce qu'en fait c'est une est-ce que la lecture de Rabelais en fait finalement nous conduit vers une ouverture
les multivers d'Aurélien Barreau.
Ou est-ce qu'il nous enferme lui-même dans son univers qui est déjà tellement monstrueux et excessif qu'on ne peut plus en sortir, en fait qu'on est même dévoré par
on
lui.
On dit qu'on devient fou à lire Dante, mais on devient ivre et peut-être gâteux à lire Rabelais. La difficulté du texte est tellement effrayante, les empilements de références sont tellement hallucinantes, la bibliothèque de Rabelais est tellement illimitée, c'est un homme qui a tout lu, ce qui était imprimé et manuscrit de son temps, et manuscrit. Donc on est face à des excès pareils, il est évident que c'est pire que de manger un bœuf. Simplement, se marquerait cette voie. Plus tu étreins la totalité, plus tu aimes à la fois cette union des coucheries et des hallucinations spirituelles, plus tu gardes cette finesse qui est le signe dans l'atomisme du monde de ta liberté. Reste fin, reste esprit subtil au cœur même des orages de la matière. Voilà l'enjeu. Merci beaucoup Bruno Pinchard d'être venu à nouveau. Vous étiez venu nous parler de Marx et vous venez donc aujourd'hui, vous êtes venu aujourd'hui nous parler de Rabelais. Je rappelle que l'on peut lire de vous sur le sujet Philosophie à outrance, 5 essais de métaphysique contemporaine, c'est aux éditions EME, et aussi Métaphysique de la destruction, c'est aux éditions Peters. Et puis évidemment, chers auditeurs, vous pouvez lire Rabelais, Pantagruel, Gargantua, le tiers livre, le quart livre et le quin livre ou cinquième livre. Ces livres, vous pouvez les lire en Pléiade chez Gallimard ou aussi, ils sont aussi disponibles au Seuil, en point, à la fois en français ancien et moderne. Et quant à nous, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine à la table des philosophes. Et demain, nous finirons par la digestion en compagnie de Claire Pagès qui évoquera pour nous ses mouvements dialectiques à partir de Hegel. Et puis, quant à vous, si vous souhaitez réécouter en ligne ou télécharger ou podcaster cette émission, eh bien, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez en plus toutes les références bibliographiques et musicales de chaque émission. Et vous pouvez aussi bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.